Radio Okapi. Pascal Mazeka pour le journal.
Au sommaire du journal, ouverture ce lundi à Goma, au Nord Kivu, de la 6e conférence des gouverneurs de province. Au menu, la mobilisation des recettes et leur structure des dépenses. Les assises de Goma sont dirigées par le président Joseph Kabila. Retour à la maison ce lundi des responsables des partis politiques de l'opposition dans la ville de Goma, au Congo central, après leur convocation aujourd'hui par le service de renseignement. Ils ont été invités à remettre une note du maire de la ville dont la correspondance a été refusée. Le conseil juridique de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba annonce pour bientôt la tenue à Kinshasa d'un congrès extraordinaire de l'UDPS pour décider de la succession du président de ce parti politique. Maître Michel Eboma est l'invité de Radio Okapi. Bonsoir à tous. Ouverture ce lundi à Goma, au Nord Kivu, de la 6e conférence des gouverneurs par le président Joseph Kabila. Au centre du débat, la mobilisation des recettes propres aux provinces de la RDC et leur structure des dépenses. Le compte-rendu de Rosalie Zawadi.
Après une matinée consacrée à la présentation des gouverneurs sur l'état des lieux de leur province en matière de mobilisation des recettes propres, les ministres des tutelles sont intervenus l'après-midi pour expliquer la mobilisation des recettes et l'affectation des dépenses. Pour des cadres de certaines provinces, parler de mobilisation des recettes propres des provinces sans la rétrocession du gouvernement central, c'est se voiler la face. Plusieurs projets des provinces ne sont pas réalisés parce que le gouvernement central ne rétrocède pas aux provinces les fonds prévus, ajoute-t-il. Ils expliquent que d'autres provinces fonctionnent difficilement. Leurs agents sont impayés depuis des mois à cause justement de la non-rétrocession. Pour ces premiers jours des travaux, était aussi prévue la présentation du ministre de la Défense sur les contraintes financières liées à la sécurisation des élections, mais aussi celle du président de la CENI concernant les contraintes financières liées aux élections. Ces travaux seront clôturés ce mardi. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa où le cadre permanent des concertations de la femme congolaise s'indigne de l'adoption de la loi électorale au Parlement sans avoir pris en compte la notion de la parité. Indignation exprimée ce lundi au cours d'un point de presse tenu dans la capitale congolaise. La présidente du CAFCO appelle les autorités du pays au respect de l'article 13 de la Constitution qui consacre la parité hommes-femmes. Rose Mutombo Kiesse au micro de Marcel Mayoyo Fwamba.
La seule avancée que nous avons pu obtenir dans cette loi, c'est la cooptation des chefs coutumiers et que dans la loi actuelle, on a mis l'incise que les femmes avaient proposée, c'est-à-dire on doit tenir compte de la parité homme-femme dans la cooptation des différents chefs coutumiers. Quant à l'article 13 de la loi électorale, elle a été reprise telle que on l'avait énoncé dans les lois précédentes et pourtant l'alinéa 2 viole la Constitution en donnant la possibilité aux différents partis politiques d'aligner ou pas les femmes sur leur liste. Et nous lançons maintenant le message vers le président de la République qui est le garant suprême des institutions et de la Constitution pour qu'il pèse de tout son poids pour que cet alinéa 2 qui viole la Constitution soit élagué dans cette loi qui vient d'être adoptée. Si on ne prend pas nos revendications en compte, nous allons vers la Cour constitutionnelle qui est le dernier recours pour avoir gain en cause.
Et puis, élection le 21 décembre 2017 du gouverneur de la province de l'Équateur. Trois candidats sont en lice, dont deux indépendants, Freddy Bompanzé et Donatien Iluku comme vice-gouverneur, Freddy Lacombo a comme colistier Rachel Ekoto. Bobo Boloko de la majorité présidentielle s'aligne à cette élection avec Tati Bikamba comme vice-gouverneur. Francis Mboyo se présente avec Longoso Nyekpale. Cependant, certains habitants de la ville de Mbandaka se disent sceptiques. Leurs avis sont recueillis par Dominique Olombi Mongapangi.
En tout cas, moi je pense que l'élection du gouverneur dans notre province, c'est un coup d'épée dans l'eau. À chaque fois, ce sont les députés qui organisent les tensions afin de faire tomber le gouverneur et de créer ensuite un marché qui va remplir leur ventre et non la province de l'Équateur. Ils vont élire un gouverneur, dans deux semaines, ils vont commencer avec des motions de défiance et l'histoire va se répéter malheureusement dans notre province.
Nous pensons que le gouverneur qui sera bientôt élu ne sera pas à la hauteur des défis qui attendent l'Équateur.
pas parce que nous connaissons comment les élus locaux se comportent vis-à-vis de l'élection de telle envergure. Mais nous demanderons à tous les députés provinciaux qui vont élire et qui fassent le choix qui peut rencontrer les desiderata de la province de l'Équateur.
Nous avons besoin d'un gouverneur efficace. Nous ne voulons pas que chaque année, on puisse avoir des gouverneurs. On a besoin d'évoluer à l'Équateur. Nous sommes en retard à l'Équateur. Je vous prie, messieurs les députés, d'être sincères à votre travail.
À Kananga, pendant ce temps, deux candidats en lice au gouvernorat du Kasaï central ont présenté ce lundi leur discours programme devant les députés provinciaux. Denis Kambay et Martin Kabuya se sont livrés à cet exercice dans le cadre de leur campagne électorale. Ils ont parlé à l'occasion de l'amélioration des conditions sécuritaires et sociales après la crise née du phénomène Kamuinansapu. On écoute Denis Kambay, candidat de la majorité présidentielle.
Compte tenu de l'état de délabrement très avancé des infrastructures économiques et sociales, de l'effondrement de la production agricole et du contexte sécuritaire de l'éther dans notre province, la vision que nous avons l'honneur de vous présenter ce jour s'articule autour de sept axes prioritaires, à savoir la sécurité, l'autosuffisance alimentaire, l'eau et l'électricité, le désenclavement du Kasaï central, l'environnement de la ville de Kananga et de territoire, la relance de la politique sportive et encadrement de la jeunesse, ainsi que les élections.
Écoutez cette fois-ci Martin Kabuya, candidat indépendant.
Nous allons rassembler les filles et fils de la province afin de réaliser la vision du chef de l'État au Kasaï central, uni, paisible et prospère. Nous comptons travailler en parfaite harmonie avec toutes les institutions publiques au niveau provincial afin d'éviter des crises inutiles. Ainsi, nous attendons respecter scrupuleusement les attributions de l'Assemblée provinciale, celle représentation légitime de notre peuple, car la démocratie implique la séparation du pouvoir. Nous formerions un gouvernement de cohésion provinciale comprenant toutes les sensibilités politiques, mais aussi une part non négligeable des députés provinciaux qui voudront bien nous accompagner dans l'œuvre salvatrice de notre province.
Des propos recueillis par Blaise Ndongala. Les habitants touchés par la crise née du phénomène Kamuinansapu au Kasaï central attendent du gouverneur un travailleur qui s'occupera de leur train de vie. Ils dressent ici le profil du nouveau gouverneur élu. Ils se sont confiés à Blaise Ndongala.
Pour moi, c'est avoir un gouverneur qui doit nous amener la paix. La province du Kasaï occidental, démembrée aujourd'hui Kasaï central, avait été appelée autrefois oasis de paix. Nous avons vu les sangs couler à flot, alors nous avons besoin d'un gouverneur qui sera unificateur.
Kasaï occidental a besoin d'un gouverneur rassembleur qui peut concilier les fils du Kasaï divisés à cause de la guerre des Kamuinansapu.
Il faut chercher un bon gouverneur à élire dans le moment que nous avons passé ici. Les gueules des gouverneurs qui ne se partagent pas avec des gens égoïstes, ça c'est pas quand même bien. Le gouverneur doit être social.
On peut chercher un gouverneur socialiste qui peut aider aussi tout le monde à vivre bien. Nous n'avons pas besoin des majorités d'opposition, mais nous cherchons un homme capable qui peut aider la province et d'aller à l'avant.
Un gouverneur social délimité, qui n'a pas le tribalisme, qui écoute les gens de tout âge.
L'actualité, c'est aussi le Congo central où les responsables des partis politiques de l'opposition à pied d'œuvre dans la ville de Boma qui ont été convoqués ce lundi au bureau de l'Agence nationale de renseignement sont rentrés chez eux cet après-midi. Et c'est ce qu'affirme à Radio Okapi l'un d'eux, le secrétaire fédéral de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Il salue le respect et le dialogue des agents de l'Agence nationale de renseignement en air Boma. Ils ont été invités à recevoir une note du maire de la ville, une correspondance qu'ils ont refusé de réceptionner. Jonas Tundundundu est joint par Guy Roger Nyampala.
Tous les partis de l'opposition, nous étions invités au service de l'ANER. Généralement, sur le terrain, nous sommes arrivés. Bon, l'ANER nous a entretenus, soi-disant, sur demande de Madame le maire ou le maire de la ville de Boma pour nous remettre un courrier de Madame le maire de la ville. Un courrier qu'on a pendu. Et d'une manière unanime, nous avons refusé de prendre les courriers devant l'ANR. Nous avons du moins salué l'esprit du dialogue de l'ANR qui a eu à parler avec nous poliment. Nous n'avons pas été menacés. Nous avons refusé de prendre les documents. pour la simple raison, tous ces derniers temps, Madame le maire de la ville de Bouma, toutes les correspondances de l'opposition, elle refuse ce service, elle refuse d'attiser réception. Et donc, comme elle refuse d'attiser réception des courriers de l'opposition, nous ne voyons pas comment nous aussi on va recevoir un courrier par intermédiaire.
Et puis, dans la province de la Topo, plus de 200 veuves et orphelins des militaires FARDC n'ont pas touché leur rente de survie de décembre. Ils reconnaissent tout de même que le mois d'octobre et de novembre ont été payés. Ils constatent cependant que leurs noms ne sont pas repris sur la liste de paye du mois de décembre. Le gérant de la Rao Bank à Kisangani leur a dit que le problème ne se situerait pas à son niveau, mais qu'il fallait se référer plutôt aux autorités de FARDC. Une des victimes, qui a requis l'anonymat, s'est plaint au micro de Donatien Aliana Alipanagama.
Je touche régulièrement chaque mois mon argent. Mon mari fut premier sergent-major. Je gagne 132 000 francs congolais. Aujourd'hui, pour ce mois de décembre, le distributeur indique solde zéro. Où est donc parti l'argent? Nous avons vu le gérant. Le gérant nous dit que ce problème concerne vos autorités et non la banque. Le major Mouaka est venu ici tôt le matin et s'est amené avec une liste de personnes qui seront payées. Les autres ne seront pas payés. Néanmoins, votre argent est dans nos caisses. C'est lui qui bloque. Si vous ne menez pas des démarches, vous n'aurez pas cet argent. Allez donc vous plaindre à l'état-major. C'est là où tous ces jours nous a-t-il dit.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, les pères de la congrégation du Saint-Sacrement dénoncent l'expropriation de leur concession dénommée Kassia sous prétexte que cette concession se trouverait dans le domaine agro-industriel de Bukangalonzo. Dans un mémorandum adressé le 15 décembre dernier au Premier ministre congolais, le supérieur et représentant légal de cette congrégation en RDC exige que cette expropriation leur soit notifiée officiellement et que l'État congolais respecte la procédure en la matière. Le père Anaclet Bambala Mazina est joint par Jean-Pierre Elali Koko.
Nous proposons que l'État congolais respecte le droit nous reconnu par la loi et respecte aussi les préalables établis par la loi sur l'expropriation. Que nous soyons saisis et notifiés officiellement, parce qu'on ne nous a jamais notifié officiellement que nous sommes expropriés. Cependant, sur terrain, on est menacé par les agents de ces parcs. Que l'État nous notifie officiellement qu'il veut nous exproprier de notre domaine et qu'en fonction de cela, un accord soit signé entre nous et l'État qui est un protocole d'accord sur nos droits nous reconnus par la loi. Et nous suggérons à ce propos qu'il y ait une commission mixte qui puisse évaluer notre patrimoine, qui puisse établir aussi la compensation équivalente et les dommages dont l'État nous doit par rapport à notre concession.
Actualité Afrique Monde. L'actualité de l'étranger maintenant en Afrique du Sud, le Congrès national africain devrait annoncer aujourd'hui lundi le nom du successeur de son président, Jacob Zuma. C'est au terme d'un scrutin marathon crucial pour l'avenir du parti et du pays. Cette élection oppose l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa à la candidate soutenue par Zuma, son ancienne épouse et ex-patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Le vainqueur de ce duel pourrait devenir dans 2 ans le président du pays à la fin du mandat de Jacob Zuma si l'ANC remporte les prochaines élections générales. À Libreville, le Conseil supérieur des affaires islamiques a condamné hier dimanche après-midi l'attaque au couteau perpétrée contre 2 Danois à Libreville par un Nigérian ayant crié « Al-Akbar » et disant agir en représailles à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Ces 2 Danois ont été blessés, dont l'un gravement. Au Nigeria, pendant 7 ans, au moins 4 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un convoi des marchandises par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram. C'était dans le nord-est du pays, a-t-on appris des sources concordantes. Samedi après-midi, les insurgés sont arrivés à bord des 2 pick-up et ont ouvert le feu sur un convoi se dirigeant vers la ville commerçante de Gambourou à la frontière avec le Cameroun. Au Zimbabwe, l'état-major de l'armée a officiellement annoncé aujourd'hui la fin du coup de force qui a précipité le mois dernier la fin de 37 ans de règne sans partage exercé par l'ancien président Robert Mugabe sur le pays. Traditionnel soutien du régime depuis l'indépendance du pays en 1980, les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre dernier dans la rue d'Harare, la capitale, pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, placé en résidence surveillée. Robert Mugabe, âgé de 93 ans, a démissionné, souvenez-vous, une semaine plus tard, lâché par son parti politique.